La Bible révèle que la fin de toutes choses est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ.
Bonjour de nouveau, chers amis. C'est un plaisir de vous rencontrer de nouveau au début de cet après-midi. J'espère que vous avez fait une bonne sieste pour être attentif. Pardon? Pas trop manger alors. Alors, je désire revenir un tout petit peu sur ce diagramme que j'estime très important pour nous aujourd'hui, pour nous situer dans ce que dans Daniel chapitre 12 appelle par exemple le temps de la fin. Voyez, ce sont des événements qui vont très très vite et sans que nous nous apercevions. C'est pour ça que tout à fait au début, vous vous rappelez, j'ai placé le cadre de mon intervention dans le chapitre 24 de Matthieu. Je vais revenir encore sur ce chapitre 24 qui est le cadre de mon intervention et qui concerne en particulier ce temps de la fin dont parle Daniel dans le chapitre 12 et que nous devons avoir très net dans notre esprit puisque c'est en quelque sorte l'emploi du temps de Dieu pendant ce temps de la fin. D'où son importance dans notre préparation et ce matin, je suis très ravi de participer à une course, puisque ça fait partie d'une préparation adéquate pour la venue de Jésus. Alors, lorsque vous ouvrez votre Bible de nouveau dans Matthieu chapitre 24, qui est le cadre de ce temps de la fin dont parle Daniel, par exemple, dans le chapitre 12. Je lis Matthieu, chapitre 24, verset 14. « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. » Il y a donc ici une prédication universelle ou, selon les textes, dans le monde entier. Et qu'est-ce qu'il faut prêcher ici? C'est marqué clairement ici. Bonne nouvelle du royaume. C'est ça le sujet de cette prédication finale. Et en quelque sorte, la parole de Dieu nous a donné des éléments pour nous y préparer, pour nous encourager. Allons-y par exemple dans l'épître de Pierre. L'épître de Pierre, deuxième épître de Pierre. Deuxième épître de Pierre, le verset 11 et 12, je lis le verset 11 et 12 pour mettre dans deuxième épître de Pierre, chapitre 3. Chapitre 3, versets 11 et 12, ce qui nous intéresse surtout, c'est le verset 12, mais on va le mettre dans son contexte. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre. Ce texte nous montre, les amis, que toutes les choses que les hommes sont en train de construire actuellement, soit dans le domaine économique, soit dans le domaine financier, soit dans le domaine religieux. Je viens d'écouter dans ma voiture la rencontre actuelle à Londres entre Donald Trump et Theresa May, et le plan qu'ils envisagent après le Brexit de construire pour jeter un pont beaucoup plus solide entre l'Angleterre et les États-Unis. Vous voyez, c'est échafaudage d'un plan qui va être dissous. Et ceci nous amène à ne jamais construire un plan de notre vie qui est en dehors de ce schéma-là. Vous voyez ? Toutes ces choses doivent se dissoudre. Voilà le schéma. Ceci doit nous mettre un frein lorsque nous faisons des plans. Par exemple, on a visité avec mon épouse tout à l'heure une grande maison en pierre juste à côté. Tout ça va dissoudre. Ce n'est pas la peine de faire un plan aussi gigantesque en pierre, en béton, alors que tout cela va dissoudre. Voyez, premier enseignement que nous enseigne la parole de Dieu dans nos plans respectifs. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Et ce matin, nous avons couru pour cultivé cette sainteté et notre piété en vue de cet événement de la venue de Jésus. Mais surtout, le verset 12. Tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Je relève surtout la première partie de ce verset, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Il y a d'abord un élément personnel dans cette attente et dans cette, j'allais dire, accélération de l'avènement de Jésus. C'est par faire en nous l'image du Christ avec l'aide de ce que la Bible appelle la pluie de l'arrière-saison. Nous avons insisté sur le fait que cette pluie de l'arrière-saison ne sera donnée qu'aux personnes qui adorent le vrai Dieu. C'est Deutéronome chapitre 11 que nous avons mentionné qui constitue les textes importants qui nous montrent cela. Et ça, il faut en être conscient, d'une part, mais surtout peut-être aussi intégrer cela dans notre message autour de nous, pour que nos voisins, nos amis, notre famille soient au courant de l'existence de cette pluie de la première saison, afin que cette pluie prépare l'autre pluie qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison, dont le rôle est de nous aider justement à porter ce message qu'Apocalypse chapitre 18 appelle le grand cri, qui est une répétition du message du troisième ange. Et nous sommes appelés à répéter le message du troisième ange avec force, avec conviction, avec détermination, en engageant tous nos moyens, quels qu'ils soient, parce que tout ce que nous possédons va être dissous. Mettons tout ce que nous possédons entre les mains de Dieu, entre les mains de Jésus pour proclamer ce message. C'est ça. Si nous revenons à Matthieu chapitre 24, la mission de ce que Jésus appelle dans Matthieu chapitre 24, les élus. Qui va annoncer cette bonne nouvelle dans Matthieu chapitre 24, verset 14? Ce sont les élus dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 24. Ces élus qui sont attentifs aux signes que Jésus leur a donnés ici et là pour qu'ils se préparent. En voici un, par exemple, les amis, il y a une douzaine de jours, le pape est venu dans la ville de Calvin à Genève. Et l'accueil du gouvernement suisse, l'accueil de l'État de Genève était sans égal, enthousiaste. Et nous apprenons par la presse genevoise et puis par la presse catholique en même temps que ce sont les protestants, par l'intermédiaire du Conseil œcuménique des Églises, présents à Genève, qui a invité le pape. Le Conseil œcuménique des Églises, c'est une association de plus de 350 églises non catholiques, œcuméniques. Et l'adventiste est un observateur assidu dans le Conseil œcuménique des Églises. Je connais personnellement les représentants officiels de l'Église adventiste en tant qu'observateurs au sein du Conseil œcuménique des Églises. Observateurs avec le Vatican. Vous voyez ici, ils s'opposent deux églises qui, dans leur message, sont très opposés. Deux observateurs, l'un, le Vatican, l'autre, l'Église adventiste. Je me rappelle, il y a 4 ans de cela, je suis allé au Conseil œcuménique des Églises à Genève pour consulter leur immense bibliothèque. Et il y avait une rencontre du comité directeur du Conseil œcuménique des Églises. Et je suis allé là pour consulter des livres dans la bibliothèque et en même temps pour saluer mon cousin qui est le président de l'Église protestante à Madagascar. Il est représentant donc de plein droit au Conseil œcuménique des Églises. J'entre dans la salle pour saluer mon cousin et qui vois-je, pas tellement loin, le représentant adventiste que je connais très bien puisqu'il était élève à Collonges sous Salève, l'école francophone adventiste. Et il me voit et il baisse les yeux comme ça le gêne de le voir dans cette assemblée de tous les dirigeants des églises protestantes. Et lorsque la réunion est terminée, il sort et il vient me saluer à la porte du Conseil œcuménique des Églises, un peu gêné. Je sens qu'il est un peu gêné. L'Église adventiste fait partie, parce que l'Église adventiste en France en tout cas, est associé à la Fédération protestante de France. Et le frère adventiste qui était envoyé comme délégué de l'Église adventiste est mandaté par la Conférence générale. Mandaté par la Conférence générale. Vous voyez ici, par conséquent, lorsque le pape est venu à Genève, invité par le Conseil œcuménique des Églises, cela veut dire qu'il y a un lien très étroit entre, d'un côté, les protestants et, de l'autre, le Vatican. Et beaucoup d'églises américaines protestantes font partie du Conseil œcuménique des Églises. Et si vous lisez, je vous conseille de lire et relire ce que Ellen White écrit dans La tragédie des siècles, lorsque le protestant tend la main, comme c'est le cas évident là, il y a une douzaine de jours, au Vatican, alors la ruine, dit Ellen White, est certaine. C'est un signe des temps pour les élus. Voyez ici, il faut être parmi les élus dont parle Jésus dans Matthieu chapitre 24 pour être attentif à ces signes-là et pour se préparer le plus vite possible. Le plus vite possible, car le temps est court. Le temps est court. Et dans cette préparation pour attendre et hâter l'événement du Seigneur, c'est un honneur sans précédent que d'attendre tout en hâtant l'avènement du Seigneur. Regardons donc notre diagramme. Voilà ce diagramme dont nous avons parlé, qui nous sert de repère dans notre compréhension de ce que Daniel appelle le temps de la fin. Vous voyez, ce temps de la fin, c'est à partir de 1844. Mais il y a certaines précisions que la parole de Dieu nous communique pour savoir cet emploi du temps dans cette partie de l'histoire du monde. Hier, nous avons parlé du scellement ici. Et aujourd'hui, nous allons étendre notre sujet sur le thème de la pluie de l'arrière-saison et la proclamation du grand cri. La pluie de l'arrière-saison et la proclamation du grand cri. Cette expression, le grand cri, vous le trouvez dans Apocalypse chapitre 18. Apocalypse chapitre 18. Verset 2. Je lis à partir du verset 1. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange. Un ange, ici, c'est un messager. C'est dans le cadre de notre monde aujourd'hui, c'est un groupe de personnes à qui Dieu a confié un message pour proclamer ce message avec beaucoup de bruit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre message qui avait une grande autorité. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Voyez ici, ce messager a une puissance extraordinaire jusqu'à éclairer toute la terre avec leur message. Et le verset 2, « Et il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. » C'est un message qui n'est pas du tout accepté facilement. Pour quelle raison ? Parce que tout le monde aujourd'hui considère Babylone la Grande comme une institution exceptionnelle qui veut sauver le monde en dénonçant ce qui ne va pas sur le plan moral, sur le plan écologique, sur le plan économique. Et au début du mois de juin dernier, dans la rencontre du groupe qu'on appelle Bilderberg, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe, c'est un groupe de tous les dirigeants très influents du monde, le groupe Bilderberg. Et pour la première fois, le Vatican a envoyé le président de la curie romaine, le cardinal Parolin. C'est un cardinal qui est en train de monter actuellement. Et certains journalistes pensent que ce sera le remplaçant du pape actuel. Pour la première fois, le Vatican a envoyé un délégué pour discuter des choses extrêmement importantes concernant la marche du monde. Il y avait 12 sujets, et parmi les 12 sujets, il y a des sujets économiques, des sujets écologiques, des sujets, attention à cette fois-ci, des sujets concernant les informations. Voyez ? Concernant les informations. Et ça, c'est très important, les amis, de le savoir. Car les représentants de Google étaient invités dedans. Parce que le représentant de Google maîtrise la récolte des informations, des données entre les mains de cette compagnie. Voyez ici, il y a des signes que seuls, je répète, les élus connaissent et qui leur permettent de se préparer le plus vite possible, ne pas faire des plans gigantesques parce qu'ils savent que tout va être dissous, bientôt. Alors, notre propos sera, puisque vous voyez par conséquent ce scellement qui est ici, dont nous avons parlé, et le scellement nous amène à la proclamation du grand cri qui se placerait donc ici, et après, la fin du temps de grâce sera terminée. Vous voyez que tout va très, très vite. C'est pour ça que des fois, je suis triste pour nos amis, nos familles, ceux qui sont dans nos églises, parce qu'ils ignorent que la fin du temps de grâce qui est ici sera pour bientôt. bientôt. Et après, ces points rouges qui sont ici vont arriver très très vite. Et là, le scellement qui est ici est indispensable pour traverser ça. Et après cela, Jésus va revenir. Voilà, grosso modo, ici, je ne suis pas entré dans les détails, pour que vous ayez ce schéma dans votre esprit pour votre préparation personnelle. En rapport avec, par exemple, le fait de se préparer physiquement pour notre spiritualité, pour notre corps, comme nous avons eu l'occasion de faire ensemble ce matin. Et le fait de se préparer physiquement ce matin, pour moi, est une, en quelque sorte un symbole d'une préparation commune, tout le monde ensemble, ici, avec nos familles, nos enfants, en vue d'attendre le retour de Jésus. Ensemble. On court ensemble. Je vais... Le titre, donc, c'est « La pluie de l'arrière-saison et le grand cri ». La pluie de l'arrière-saison et le grand cri. Nous avons parlé de ce texte qui se trouve, je vais rapidement, puisque nous l'avons lu, dans Deutéronome chapitre 11, versets 13, 14, 16 et 17, qui parle de la première et de l'arrière-pluie, pluie de l'arrière-saison, pluie de la première saison. Ces deux pluies-là ont deux fonctions différentes. La pluie dite de la première saison, son rôle consiste à achever notre caractère. Voyez, tous nos défauts doivent être écartés. Ça, c'est le rôle de la pluie de la première saison. Et nous avons vu hier que la pluie dite de l'arrière-saison ne peut être donnée que si le vase, j'utilise un langage imagé ici, que si le vase est propre, net. Vous voyez ? Autrement dit, que si la pluie de la première saison a fait totalement avec notre accord le nettoyage de notre cœur. C'est la condition primordiale. Après, va venir occuper notre cœur ce qu'on appelle la pluie de l'arrière-saison. Mais ces deux pluies-là, si vous lisez Deutéronome chapitre 11, ne peuvent venir qu'à une condition. C'est le verset 17 qui le dit, « Gardez-vous de laisser séduire votre cœur et de vous détourner, de servir d'autres dieux et de vous prosterner devant eux. Gardez-vous !» La colère de l'Éternel s'enflammerait alors contre vous, il fermerait les cieux et il n'y aurait point de lui. Vous voyez, c'est tellement net, hein, ici. Hier, j'ai mentionné le texte de, je reviens là-dessus, dans Psaume 135. Psaume 135, le verset 17. Psaume 135, verset 17, « Contrôlez bien, il est question des idoles des nations. Il est dit ici à la fin du verset 17 que ces idoles n'ont point de roi, de souffle, d'esprit. Ces idoles parlent du Saint-Esprit, mais c'est un faux Saint-Esprit. Pas de souffle. Où ? Dans leur bouche. Tandis que Jésus, notre Dieu, dans sa bouche, il a un souffle, il a un esprit. Je vous ai lu l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22. L'évangile de Jean, chapitre 20, verset 22. Je lis à partir du verset 21. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Voyez ici l'envoi des élus. Mais pour le temps de la fin, pour proclamer le grand cri. « Moi aussi je vous envoie. » Et après cela, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez le texte en rapport avec Psaume 135. Il leur dit, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Voilà la différence. C'est ce qui justifie Deutéronome chapitre 11. Si on adore des idoles, il n'y a pas de souffle dans la bouche des idoles. Pas de souffle. C'est là la tromperie gigantesque de beaucoup de nos frères et sœurs qui sont à l'intérieur de la communauté adventiste. Je les connais, moi, personnellement, dans notre région et en Suisse. Des personnes qui sont sincères, qui suivent, j'allais dire presque à la lettre, ce que l'esprit de prophétie, par exemple, enseigne, jusqu'à faire des sacrifices pour garder leurs enfants à l'école, pour faire école à la maison. Vous voyez, ça demande énormément de sacrifices. Mais malheureusement, il y a un blocage que de ne pas comprendre ce que Deutéronome 10, malgré de multiples tentatives, malgré l'envoi des brochures, des livres que frère Alain Stump a écrit, on leur a mis entre leurs mains, puisqu'ils parlent l'anglais. Rien à faire. Et cette famille de déclarer qu'il faut rester à l'intérieur de l'Église, puisque Ellen White a dit que l'Église ne tombera jamais, ce qui est une erreur, une mauvaise compréhension du contexte dans lequel Ellen White a dit cela. Peut-être que lorsque vous allez ici et là rencontrer des personnes dans la communauté adventiste, des personnes qui sont très, très engagées, connaissent très bien les écrits de l'esprit de prophétie, ils vont vous dire, l'Église adventiste ne tombera jamais. C'est Ellen White qui l'a dit. Vous voyez, c'est cette phrase qui est extraite de son contexte qui entraîne beaucoup des personnes de ce genre à tomber dans l'erreur. Alors, je vais vous montrer ce contexte-là. Ellen White a écrit cela en 1880. 92. Cette date est extrêmement importante. En quelle année ? 1892. Cela veut dire 4 ans après 1888. Que s'est-il passé en 1888, si vous connaissez l'histoire de notre de la dénomination adventiste? Ah, c'est le message de la justification par la foi. Mais juste donc quelques années après la proclamation de ce message de la justification par la foi, le contexte historique est le suivant. Il y avait des gens qui ont répandu partout dans les églises de cette époque qu'il y a des péchés ou des abominations à l'intérieur des églises. Vous voyez, donc, dénonce ces péchés qui se trouvaient à l'intérieur de l'Église à cette époque. Et à ce moment-là, Ellen White a écrit ce message-là. L'Église de cette époque, je souligne, l'Église de cette époque qui venait de recevoir le message de la justification par la foi, ne tombera jamais, ne tombera pas. Voyez ? Et c'est ça que les personnes qui vont vous jeter ça sous votre nez ne comprennent pas. Voyez ? Donc il faut, et en général c'est comme ça lorsque vous lisez les ouvrages d'Ellen White, toujours envisager le contexte pour ne pas être trompé dans la lecture du message. Donc, certainement, on va vous dire, l'Église ne tombera pas, etc. Non. Sachez qu'il faut placer cette citation dans son contexte. Alors, voyons maintenant la tromperie de Satan. Il y a un faux et un vrai réveil par l'onction du scellement, la réception de la pluie de l'arrière-saison. Alors, ça, c'est pour les anglophones, cette partie qui est ici. C'est pour les anglophones. Tandis que pour les francophones, c'est cette partie qui est ici. Alors, je vais m'attarder un tout petit peu sur cette partie qui est ici pour la majorité d'entre nous. Donc, il faut dire pour ceux qui sont anglophones que pour eux, c'est ici, c'est exactement le même texte. Exactement le même texte. Alors, avant les jugements de Dieu, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, les jugements de Dieu... Dans le schéma que j'ai donné tout à l'heure, c'est après la fin du temps de grâce. C'est ce qu'on appelle les sept plaies. Vous voyez, les sept plaies du jugement de Dieu, avant que les jugements de Dieu fondent sur la terre, il y aura au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Ah, c'est pour cette raison, les amis, que c'est véritable privilège de vivre notre temps, puisqu'on va vivre cela, cette piété primitive que les apôtres ont connu. Vous vous rappelez, c'était hier, frère Alain Stump a dit « Quel est le moment que vous souhaiteriez vivre dans l'histoire du christianisme ?» Eh bien, pour moi, c'est maintenant. c'est maintenant, c'est un moment excitant, ce que nous allons vivre bientôt, et même maintenant, déjà. Voyez ? Donc, l'Esprit et la puissance de Dieu seront déversés sur ses enfants. Alors, beaucoup sortiront des églises. C'est ça ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 14, chapitre 18. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Beaucoup entendront cet appel de sortie du milieu de Babylone la Grande. Mais c'est seulement mon peuple qui entend cet appel. Seulement mon peuple. Retenez bien ceci, hein, donc c'est très sélectif. Le salut est très sélectif. Vous allez dire, c'est injuste. Non, il n'y a pas d'injustice de la part de Dieu. L'injustice vient de nous qui refusons l'offre du salut. C'est ça l'origine de cette sélection. Les élus, ça signifie qu'il y a une sélection. Vous voyez ? Mais ce n'est pas une injustice de la part de Dieu. Pas du tout. C'est nous qui sommes à l'origine de cette sélection qui peut-être soit favorable si nous acceptons l'appel de Dieu, soit défavorable pour nous si nous refusons. Et malheureusement, c'est la majorité. Alors, beaucoup sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. Beaucoup de pasteurs et de laïcs accepteront avec joie les vérités que Dieu a fait proclamer en ce temps-ci pour préparer un peuple en vue de la seconde venue du Seigneur, pour enrayer cette œuvre. Et avant que n'arrive ce moment, l'ennemi des âmes en suscite quoi ? Une contrefaçon, un faux réveil. Et Matthieu chapitre 24 nous renseigne sur ce faux réveil. Vous voyez ce lien intime entre Matthieu chapitre 24 et les messages prophétiques, par exemple ici, d'Apocalypse. Très nette connexion. Vous voyez ? Alors, c'est déjà arrivé ici, des pasteurs, il y a juste quelques mois, à peu près 6 mois, j'ai été au Cameroun, j'ai passé plus d'un mois au Cameroun, et j'ai contacté un prêtre. Ah, j'ai sa photo dans mon téléphone. Prêtre, Père Apollinaire. J'ai parlé avec lui. Les yeux dans les yeux et cœur à cœur. Et ça, il l'a senti. De Père Apollinaire, dès que je lui ai présenté le message sur Dieu, Bible en main, parce que je lui ai demandé de prendre sa Bible dans sa bibliothèque. Il a pris sa Bible et nous avons consulté ensemble. À peine une demi-heure, il a découvert la vérité. Et il a pris la décision de suivre la vérité qu'il a trouvée en très peu de temps. Père Apollinaire. Je le vois encore sur sa photo, puisque j'ai demandé tout de suite, dès qu'il a pris la décision, j'ai dit, Père, est-ce que je peux prendre votre photo ? Il a dit oui. Il est habillé en noir, comme les pères, et puis avec une croix. Il a dit, je vais donner ma démission auprès de mon évêque. Vous entendez ? Donner ma démission auprès de mon évêque. Il est allé voir son évêque. Ouais. Son évêque a refusé. Et son évêque lui a dit, ne faites pas ça. Parce que tu es connu. Et étant donné que tu es connu, ça va entraîner du désordre ici. S'il te plaît, ne fais pas ça. Mais si tu veux, on va te donner une diocèse très importante à la côte, à Douala. Le père Apollinaire a dit non. Il me rappelle la déclaration de Luther. Lorsque Luther et le père Apollinaire a rencontré la vérité, aucun calcul. Hein. Ces gens-là ne calculent pas, mais qu'est-ce que je vais devenir, etc. Aucun calcul. Et c'est ça, les amis, peut-être ce qui caractérise, on a lu tout à l'heure, le messager d'Apocalypse, chapitre 18, qui porte le message du grand cri. C'est cette qualité de personne qui ne calcule plus parce qu'il n'a rien à perdre. Aucun calcul. Qui savent marcher par la foi. Quelle que soit la situation qui est devant. Qui connaissent ce que j'appelle la pédagogie de Dieu et que nous avons eu l'occasion d'évoquer dans Deutéronome chapitre 8, que je relis puisque j'aime beaucoup et j'apprends beaucoup cette pédagogie de Dieu. Dieu humilie et éprouve pour savoir. Deutéronome chapitre 8, verset 2, pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Voyez, c'est ça la pédagogie de Dieu. Dieu connaît la disposition de ton cœur, mais pour que tu puisses savoir, ah, voilà ce qu'il y a dans mon cœur. Et ne soyez pas étonnés parce que des fois, ça nous étonne, les amis. Je vous recommande vivement de lire Deutéronome chapitre 8. Dieu conduit le peuple d'Israël en appliquant sa pédagogie dans le désert pour rencontrer qui ? Ce que j'appelle ce rocher ambulant, qui est le Christ. C'est beau, cette pédagogie de Dieu. J'aime beaucoup. Et il faut en faire l'expérience pour aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute son âme. Il faut comprendre cette pédagogie de Dieu et le vivre. À ce moment-là, votre attachement à Dieu est extrêmement solide. Vous voyez, puisque vous allez rencontrer ce que j'appelle le rocher ambulant, le Christ, dans le désert. Et c'est très beau, c'est très poétique, c'est très très beau. L'image utilisée ici, est-ce que vous pensez que d'un grand morceau de granit va jaillir de l'eau ? Mais c'est l'image utilisée ici qui est très poétique, très suggestif. C'est très, très beau. Ceci, les amis, c'est pour frapper notre imagination. Autrement dit, ne soyez jamais découragés lorsque vous êtes conduits à cheminer dans le désert. Ça arrivera certainement pour chacun d'entre nous. J'insiste beaucoup là-dessus. Ça arrivera certainement pour chacun d'entre nous. Mais c'est la preuve que Dieu est en train de t'éduquer. C'est la preuve que Dieu est en train de te perfectionner. Et oui, j'utilise ce mot, allons-y, dans Hébreu, puisque c'est un mot qui nous fait peur. Hébreu. L'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10. L'Épître aux Hébreux, chapitre 10. On va lire versets 14, 15, 16 et 17. Très beau verset. Car par une seule offrande, et ici nous rejoignons le thème même de notre camp meeting, expiation finale, le thème même de notre camp meeting. Car par une seule offrande, il a amené, ou s'il vous plaît ici, si vous lisez votre Bible sous vos yeux, il a amené à la perfection. Est-ce que pour quelque temps, qu'est-ce qui est marqué là ? Pour toujours. Est-ce que ce n'est pas beau ça, les amis ? Est-ce que ce n'est pas excitant ? Est-ce que ceci ne nous pousse pas à remercier Jésus ? Puisque c'est lui qui a fait cette offrande unique. Il faut plier les genoux devant cet amour de Dieu et surtout le fait que son Fils a accepté d'offrir son sang pour que nous ayons cette perfection éternelle. C'est ça un des éléments de ce thème de notre camp meeting, expiation éternelle. Car par une seule offrande, il a mené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, c'est une alliance. Et quelle est cette alliance ? Cette alliance revêt deux parties. Première partie. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois où ? Dans leur cœur. Et je les écrirai dans leur esprit. Ce n'est plus extérieur, mais c'est intérieur. Cette fois-ci, est-ce que ça ne vous fait pas un écho ? Je reviendrai sur Hébreu dans un instant. Dans Apocalypse chapitre 14, Apocalypse chapitre 14, le verset 12, c'est ici la persévérance des saints. C'est une autre manière de parler des élus dans Matthieu chapitre 24. C'est ici la persévérance des saints qui gardent quoi ? Les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est tellement beau là ! L'univers tout entier va découvrir que sur cette terre, il y a des hommes qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus. Ce sont ces hommes-là, ce que Jésus appelle dans Matthieu chapitre 24, les élus, et que Hébreux chapitre 10 dit qu'ils ont intégré en eux, que dans leur cœur, les lois sont gravées et les lois sont écrites dans leur esprit. Voyez ici, je trouve ça très très beau. Hein. Moi personnellement, je suis, c'est des langages aussi poétiques. Vous voyez, c'est très poétique comme langage. C'est une des formes de la poésie dite hébraïque. Et la deuxième partie, le verset 17. Hébreux chapitre 10, verset 17. Et je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Je ne me souviendrai plus de leur péché, ni de leur iniquité. Vous voyez, il y a, à peu près un mois et demi maintenant, nous avons eu l'occasion de baptiser dans la mer, en Martinique, 21 personnes. Et je leur ai dit, à ce moment-là, que c'est un privilège pour vous d'être baptisés dans la mer. Pourquoi ? Eh bien, parce que une parole de Dieu qui se trouve dans Michée se trouve cette fois-ci littéralement, Michée, chapitre 7, le verset 19. Et ça a touché ces candidats à ce moment-là. Michée, chapitre 7, verset 19. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds quoi ? Nos iniquités. Et tu jetteras au fond de la mer quoi ? Tous leurs péchés. Et c'est cette image. On a baptisé ces 21 personnes à 6 heures du matin, lorsque le soleil est en train de pointre là, de se monter au ciel, et on voit les reflets du soleil sur cette magnifique paysage. Et avant de mettre dans l'eau chaque personne, on les a réunis et on a lu Michée chapitre 7, verset 19. Les gens étaient touchés. Puisque c'est une réalité cette fois-ci, cette image poétique utilisée dans Michée qui est ici. Ce sera au fond de l'eau. Et en Martinique, lors de ce baptême, je leur ai dit que lorsque vous allez vous baptiser dans l'eau, vous portez vos habits normaux. Par contre, lorsque vous allez vous rhabiller, vous portez des habits blancs. Et Ellen White l'a dit, donc je leur ai dit, ça ne vient pas de moi, hein, c'est Ellen White. Et vous voyez, ces symboles-là ont marqué ces baptisés-là. C'est très beau. Vous voyez, des symboles, mais qui revêtent une signification tangible dans leur existence. Ah oui, l'endroit, la baie où on a baptisé Et ces personnes s'appellent la Trinité. Et les Martiniquais le savent, ce n'est pas tellement loin. De Fort-de-France, de Le François, de, oui, là, ces quartiers que je connais, voilà, pour ceux qui sont Martiniquais. Pardon? Pardon, s'il te plaît, j'ai... Ah oui, bon, je ne me rappelle plus, mais je vais te le chercher, oui. Ouais. Bon, alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais m'arrêter là, les amis, mais je vous laisse un verset. Je vous laisse un verset. J'ai commencé par Matthieu chapitre 24. Je reviens sur Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Je reviens. Matthieu chapitre 24. Et voici le verset 42. Veillez donc, chers frères et sœurs, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel moment le temps de grâce est terminé. Il y a juste des signes auxquels nous devons être attentifs aujourd'hui. Je vous souhaite, les amis, mon souhait pour chacun d'entre nous, c'est que nous connaissions réellement ce que j'appelle la pédagogie de Dieu, mais c'est tout simplement connaître Dieu. C'est ça, connaître Dieu. Et de prendre sa main dans ce qui nous amène dans le désert, parfois, de notre existence. Pour rencontrer qui? Le rocher ambulant, pour rencontrer Jésus sur notre chemin. C'est ça mon souhait pour vous. Et soyez attentifs aux signes des temps. Ce sont des jalons pour nous inviter à nous préparer sérieusement. Ce matin, physiquement, mais cette préparation physique a une répercussion à la fois spirituelle, intellectuelle et morale dans notre préparation. Que Dieu vous garde.
Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.